Je lis ce matin cette intervention de James Baldwin, immense poète, penseur, romancier, activiste noir américain dont je vous invite à tout lire. C'est un discours que reproduit Raoul Peck dans son film I Am Not Your Negro. Ça se passe en 1965 à l'université de Cambridge. Et voilà ce qu'il dit, James Baldwin. Sans même parler de tous les faits physiques que nous pourrions citer, sans parler des viols et des meurtres, sans parler du catalogue sanglant de l'oppression qui nous est déjà d'une certaine façon trop familier, ce que cela fait à l'opprimé, c'est détruire son sens de la réalité. Et voilà ce que ça veut dire dans le cas du noir américain, né dans cette république étincelante. Dès le moment de votre naissance, dans votre innocence, chaque bout de bois, chaque pierre, chaque visage est blanc. Et comme vous n'avez pas encore utilisé de miroir, vous supposez que vous aussi vous êtes blanc. C'est un grand choc pour vous, à l'âge de 5 ans, 6 ou 7, après avoir vu Gary Cooper tuer des Indiens et l'avoir applaudi, de découvrir que les Indiens, c'était vous. C'est un grand choc pour vous de découvrir que le pays où vous êtes né, auquel vous devez la vie et votre identité, n'a pas créé, dans tout son système de fonctionnement réel, la moindre place pour vous. James Baldwin, 1965.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelle lecture, mon invité. Ce matin fait-il du passé. Il est cinéaste. Il y a 2 ans, son film Moonlight triomphait aux Oscars avec la statuette du meilleur film à la clé. Son nouveau long-métrage Variation sur un livre du poète, activiste, immense romancier américain James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler, sort aujourd'hui. C'est un choc. Et figurez-vous que c'est un film France Inter. Bonjour, Barry Jenkins.
Thank you for having me.
Merci de m'accueillir.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, comment se fait-il, à votre avis, que certaines scènes de votre film, qui racontent entre autres l'arrestation arbitraire d'un jeune noir dans les années 70, semblent s'être produites non pas il y a 40 ans, mais hier?
To me, that's the power of James Baldwin.
Pour moi, c'est toute la force de James Baldwin. Ce roman est sorti en 74, donc il y a 45 ans, et pourtant, quand on décrit toute la vérité du monde qui vous entoure et que ce monde ne change ni ne progresse, alors effectivement, 45 ans après, la description n'a pas vieilli. Pour moi, cela montre à quel point les problèmes dont M. Baldwin voulait parler, auxquels ces personnages font face, restent à aborder.
Dans quelle Amérique est-ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui, Barry Jenkins?
C'est très compliqué, l'Amérique. La France, c'est compliqué. L'Allemagne, c'est compliqué. La Grande-Bretagne, c'est compliqué. Aujourd'hui, le monde entier change continuellement. Mais si James Baldwin était parmi nous et qu'on lui demandait s'il pouvait croire à tout ce qui se passe de nos jours, il répondrait « Mais ça a toujours été comme ça ». Voilà pourquoi ce roman, qui a 45 ans, est tellement actuel. L'Amérique aujourd'hui, c'est un pays d'injustice. C'est une Amérique où les lois doivent théoriquement s'appliquer aux noirs et aux blancs, aux hétéros et aux gays, aux hommes et aux femmes de la même manière. Et pourtant, ces lois sont mises en pratique très différemment selon les cas.
Mais en voyant un film comme le vôtre, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'inefficacité des luttes contre le racisme. Comment est-ce qu'on en finit avec ce cancer qui est au cœur de la culture et de l'histoire américaine, selon vous? De quels moyens est-ce qu'on dispose? Et là, c'est autant aux citoyens qu'aux cinéastes que je m'adresse.
Je ne
sais pas comment on change les choses. Pour moi, faire du cinéma, c'est pas forcément pour changer le monde. C'est peut-être pour faire bouger le point de vue des gens. J'ai vécu cela avec Moonlight, et très fort, sans l'avoir prémédité. J'essayais simplement de raconter l'histoire d'un personnage en particulier, et je ne m'imaginais pas à quel point les gens avaient besoin de voir un personnage comme lui, ou de se voir eux-mêmes dans ce personnage. Ce nouveau film, c'est un peu pareil. C'est un film, en fin de compte, sur le traumatisme. Et nous pouvons tous nous identifier à un traumatisme dans notre vie ou dans celle de nos proches. Le traumatisme, il est vif quand il surgit, mais il a bien sûr des répercussions ensuite. Il reste présent pour toujours en nous. Et moi qui raconte des histoires, je cherche comment remédier à l'injustice, au désespoir. Parce que face à cette adversité-là, il faut continuer à raconter des histoires.
Et changer, vous le dites, la façon de voir. En quoi, par exemple, la présence sur les écrans d'un plus grand nombre d'acteurs issus de minorités est-elle un enjeu essentiel? Regina King, qui a été récompensée pour sa prestation de votre film lors des derniers Golden Globes, en parlait au sujet des femmes. Est-ce que la question de la visibilité se pose ainsi?
Je crois, oui. Le cinéma a une histoire d'un peu plus de 100 ans. Et quoi? 90% de cette histoire a été dominée par une représentation représentation unique. Et franchement, par une seule voix qui trouve ses racines presque exclusivement dans la classe dominante et privilégiée. Et je crois que plus le cinéma s'ouvre aux femmes, aux personnes qui viennent d'autres milieux, d'autres races, qui ont d'autres sexualités, plus on voit, et d'ailleurs surtout les spectateurs de cinéma, parce que les Noirs, les femmes, les homosexuels sont toujours beaucoup allés au cinéma. Plus donc, ils peuvent se reconnaître à l'écran. Et c'est sûr que ça fait bouger les choses. Moi, si je ne suis devenu réalisateur qu'à 22 ans, c'est parce que je ne connaissais aucun artiste comme moi quand j'avais 5, 10, 12 ans. Si jamais j'avais vu quelqu'un comme Ryan Coogler ou Ava DuVernay quand j'avais 15 ans, je me serais lancé dans le cinéma 8 ans plus tôt.
Et pour que ça fonctionne, Barry Jenkins, encore faut-il que les films soient vus. Quand on est comme vous, un cinéaste indépendant, quelle chance est-ce qu'on a de toucher le grand public.
C'est sûr que de recevoir un Oscar, ça aide beaucoup, surtout l'Oscar du meilleur film. Mais si je partais sur une île déserte, je n'emmènerais pas mes propres films, je prendrais ceux des autres. On fait des films pour un public, pour qu'ils soient vus et partagés, à plusieurs, dans une salle de cinéma de préférence. Une centaine de spectateurs ensemble dans une salle, c'est quelque chose de très fort, très fort. Surtout quand on aborde des sujets comme ceux de ce film, ou de Moonlight, des sujets qui doivent être débattus. Donc oui, j'espère que le public verra ce film. On est à une époque où le parc cinématographique s'est embourgeoisé, et où, comme l'a dit Alfonso Cuarón au Golden Globes, seulement certains genres de films trouvent le chemin des multiplexes. Alors quand un film comme celui-ci, comme Roma, ou comme Sorry to Bother You, ou BlacKkKlansman, quand ces petits films singuliers atteignent les écrans, oui, nous espérons qu'ils soient vus.
His fingers.
Est-ce que t'es prête?
Singing my life with his words.
De toute ma vie, j'ai jamais été aussi prête que je le suis maintenant.
Nous buvons à une nouvelle vie. Tish va avoir le bébé de Fanny.
J'espère que c'est un garçon.
On va avoir un bébé. On va te faire sortir bien avant.
T'en es vraiment sûre?
Love is what brought you here. And if you've trusted love this far, don't panic now. Trust it all the way.
Just remember, be home soon.
Ce film, Barry Jenkins, c'est une variation sur un roman de l'immense auteur américain James Baldwin, très rarement adapté au cinéma. Il se trouve que Robert Guédiguian en a proposé il y a 20 ans une variation dans ce film qui s'appelait « À la place du cœur » et qui était transposé en France. Quand est-ce que ce livre a commencé à vous hanter, vous, à vous obséder ?
J'étais familier de l'univers de James Baldwin, obsédé même, je dirais, depuis une dizaine d'années, quand j'ai découvert Beale Street. Le roman m'avait été envoyé par une amie qui trouvait que je devrais en faire un film. Les réalisateurs, ils entendent ça tout le temps. Mais comme il s'agissait de Baldwin, j'ai pris la suggestion au sérieux. Et j'étais saisi par Tish et Fanny, par ces jeunes personnages noirs qui sont devenus mes âmes sœurs. Je n'avais pas rencontré beaucoup de descriptions de jeunes gens noirs mus par un amour aussi pur. Et puisque c'est Baldwin, ça parle aussi d'une réalité très concrète, avec des éléments très engagés politiquement qui accompagnent l'histoire d'amour plutôt que d'exister à côté. Et c'est cette alliance qui m'a immédiatement saisi.
Et c'est ça qui est intéressant, évidemment, dans votre film, Barry Jenkins, c'est ce parti pris qui est celui d'embrasser pleinement la dimension romantique, mélodramatique du livre. Comment fait-on, ça c'est une vraie question, pour parler d'amour au cinéma?
Eh bien, on n'en parle pas, justement. On peut montrer les choses plutôt que de les expliquer. La littérature, c'est idéal pour décrire, surtout chez James Baldwin, qui convoque la voix intérieure de ses personnages. Mais le cinéma, c'est l'art de montrer les choses. Moi, je n'ai pas à raconter au public avec des mots la sensualité de leur amour. Ce que je dois faire, c'est la mettre à l'écran, par l'entremise des comédiens, de l'image, de la musique et du son en général. C'est un vrai pari, parce que Baldwin a une voix intérieure tellement riche, suggestive et sensuel. Tout est sensuel chez lui. Si quelqu'un prend une fourchette, il va la saisir de la façon la plus voluptueuse qu'on puisse imaginer. Alors, comment vais-je, moi, traduire cela avec des sons et des images? C'était ça, le pari. Et la beauté du travail pour ce film.
Quel sentiment est-ce que c'est pour vous, l'amour, Barry?
L'amour est un sentiment multiple. Selon la hauteur du soleil dans le ciel, selon l'humeur du personnage, l'amour peut être bien des choses. Dans Moonlight, l'amour, c'est préparer un repas pour quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Ça peut être aussi la tendre caresse d'un homme sur la nuque d'un camarade. Dans ce film, là, l'amour circule de bien des façons, entre amis, entre parents et enfants, et bien sûr entre amants. Et un de mes moments préférés dans Beale Street, c'est quand Fonny, interprété par Stephen James, juste avant qu'il fasse l'amour à sa fiancée, il s'approche d'elle et il pose un châle sur ses épaules. Il fait ça tellement délicatement, tellement tendrement, mais aussi avec sensualité. Pour moi, cette tendresse, cette sensualité, c'est de l'amour.
Celle qui est ni dans l'amour et ni dans la sensualité dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité qui se bat chaque matin, bec et ongle, parfois à main nue, le plus souvent contre des moulins à vent, mais on la laisse faire parce qu'elle est fraîche. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 30 janvier ? Nantes, un peu, beaucoup, à la folie. Dès aujourd'hui, la cité bretonne accueille la 25e édition de la Folle Journée, son beau festival de musique classique. Et puisque les musiciens sont des explorateurs, c'est autour du thème du voyage que s'organise cette année la manifestation. Près de 290 concerts sont au programme, notamment les frères et sœurs Anne et Yann Kefelec, mais aussi Johnny Rass et Jean Boucaud, les étonnants chanteurs d'oiseaux, ICO. Dans tes dents, les Césars, cruellement écarté des nominations au César 2019, Mektoub My Love, Canto Uno d'Abdelatif Kechiche a été désigné meilleur film français de l'année par le syndicat de la critique de cinéma. Dans le même temps, les professionnels du 7e art ont récompensé Phantom Thread de Paul Thomas Anderson du prix du meilleur film étranger, ainsi que Jusqu'à la garde de Xavier Legrand et Girl de Lucas Dont dans les catégories premier film. Allez là.
I am going to do a residency in Vegas.
Alors tous à Vegas, après Céline Dion, Lady Gaga, Drake, Cardi B et même le très chic Mark Ronson, c'est la popstar Christina Aguilera qui vient d'annoncer qu'elle s'installait pour une lucrative résidence à Las Vegas. À l'occasion de ses 20 ans de carrière, la diva donnera donc 16 concerts entre mai et octobre prochain, de Jenny in Bottle à Lady Marmalade en passant par Beautiful, ça s'annonce dirty. Mercredi de présent, tous et toutes devant les écrans, car aujourd'hui, dans les salles obscures, outre votre film, Barry Jenkins, on se lance dans un grand voyage vers la nuit. La spectaculaire réalisation du jeune cinéaste chinois Big An. On prend des vacances avec Les Estivants, la comédie chorale cruelle, délicieuse de notre invité d'hier, la solaire, Valeria Bruni-Tedeschi. Et sinon, on dit oui aux noces qui tournent au fiasco dans À cause des filles, le nouveau Pascal Thomas. Tous à vos places. Le cinéaste américain Barry Jenkins, invité de Boomerang ce matin pour Si Beale Street pouvait parler, en salle aujourd'hui, et c'est pour nous le film de la semaine, l'histoire d'un couple de jeunes noirs américains, on l'a compris, promis l'un à l'autre, jusqu'au jour où le garçon est arrêté par la police pour un viol qu'il n'a pas commis. Ce garçon, il se trouve qu'il est artiste, qu'il est sculpteur, et ça, c'est pas anodin, si.
C'est anodin. Ça devrait être anodin. Mais pas en ce monde. Le héros, Fonny, c'est un jeune homme qui fréquente un lycée professionnel. Et ce que la société lui demande, c'est de rester dans sa filière technique, de trouver une place dans une usine, se marier, acheter une maison dans le quartier où il est né, et tout ira bien. Et lui, il veut pas de ça. Il veut devenir artiste, il veut vivre parmi les artistes, c'est-à-dire, bien sûr, là où les Blancs vivent. Et à cette époque-là, rien que pour ça, la police va l'accoster. Donc oui, c'est anodin, cette innocence est pure, mais là où cette histoire est véritablement sombre, c'est qu'elle dit, si tu te débats sincèrement pour vivre ta vie, tes actes auront des conséquences.
Mais à travers lui, Barry, vous faites quelque part le portrait d'un artiste, un artiste qui n'est rien sans ses outils, on le voit dans le film. Quels sont pour vous les outils du cinéaste ?
Il y en a beaucoup. La lumière, les décors, les costumes, bien sûr les acteurs, le mouvement des choses. Mais j'aime bien que vous parliez d'outils. Mon travail n'a rien de particulier ou de génial. J'ai aimé faire un film sur un personnage qui est un jeune artiste noir, Mais c'est pas Jean-Michel Basquiat, c'est un mec tout simple, auquel on a appris au lycée à construire des meubles et qui dit « je veux pas faire menuisier, je veux être un artiste ». C'est-à-dire exprimer le sens de son existence. Et c'est un mec tout simple. J'aime beaucoup ce moment dans le film où son copain, interprété par Brian Tyree, Henry, arrive et saisit la sculpture et commence à la frapper, parce que ce n'est qu'un objet. Qu'il démystifie cette idée d'art, que les Noirs peuvent créer de l'art, les Noirs de simple condition. Pour moi, il y a quelque chose de presque politique là-dedans. Pour moi, en tant que réalisateur, voilà où je me place, dans le film. Voilà où je me trouve.
Comment votre rencontre avec le cinéma s'est-elle faite ?
Par accident. J'étais à la fac, j'étudiais pour devenir prof de lettres, et dans cette fac, il y avait une école de cinéma. Là, j'ai compris que je ne voudrais pas réaliser des films comme tout le monde réalise des films à Hollywood. Et puis j'ai découvert Claire Denis et Wong Kar-wai. Ils faisaient un cinéma radicalement différent de tout ce que j'avais connu et qui m'a attiré très naturellement.
À Miami, là où vous avez grandi, on regardait pas de films dans votre famille ?
On voyait des films, mais c'était pas très important. On voyait les grands succès, La Couleur Pourpre, Un Prince à New York, Piège de Cristal, etc. Le cinéma n'était pas un art, c'était un spectacle, ce qui est très bien. Mais c'était un divertissement. C'était ni une vocation, ni une passion.
Quelle relation est-ce que vous entretenez avec cette ville, Miami, encore aujourd'hui ?
Ma mère vit toujours à Miami. À cause de ce qui s'est passé avec Moonlight, ce sera toujours un endroit important dans ma vie, dans ma carrière. Et je reste très lié à Miami. Je crois qu'on reste tous marqués et formés par nos 20 premières années. Et pendant ces années-là, moi j'étais à Miami. Ça se voit beaucoup dans Moonlight. Si ce film s'était déroulé à New York ou à San Francisco, il serait complètement différent.
Justement, qu'est-ce que représentait New York à l'époque pour le jeune Barry Jenkins ?
New York a toujours été une figure phare de l'espoir pour les Noirs. La renaissance de Harlem, la ville où est né James Baldwin et puis bien sûr Spike Lee, qui pour moi représentait tout le cinéma noir quand j'étais jeune. Et Spike Lee tournait tous ses films à New York. Ça m'intimidait un peu de tourner un film là-bas. J'avais tourné mon premier film à San Francisco, où je vivais. Moonlight se passait à Miami, où j'avais vécu. C'était la première fois que je tournais un film dans une ville où je n'avais pas vécu. Et donc, ce film a été une façon d'apprivoiser New York.
Alors, comment vous l'avez approché, en tant que cinéaste, justement ?
Sans intention. J'ai voulu l'approcher comme pour la séduire. Ça peut paraître saugrenu, mais c'est vraiment comme ça que j'ai abordé New York. J'ai voulu bien la connaître et trouver son énergie au quotidien. Pas ses temps forts ou ses temps morts, mais l'énergie qui fait battre le cœur de la ville.
J'ai eu l'impression que c'était une lumière particulière quand même.
C'est vrai, San Francisco a sa lumière, Miami a sa lumière, et New York a sa lumière qui est très particulière. Et je veux dire que la pluie dans le film n'était pas prévue. Quand il s'est mis à pleuvoir, on a fait avec. Et la pluie à New York, ça peut être compliqué comme météo. Mais si vous vous abandonnez à elle, si vous en profitez, ça peut être tellement beau. Dans une ville tellement peuplée, une averse peut rapprocher deux personnes et vous pouvez créer une bulle autour d'eux, ce qui s'est passé sur ce tournage.
On va en reparler, non pas de pluie, mais de lumière, d'images et aussi d'amour, juste après les Fugees que vous avez utilisés pour la bande-annonce de votre film, cette si belle reprise de Laurie Leberman, Killing Me Softly, en 1996 sur l'album The Score. Vous êtes sur France Inter avec Barry Jenkins, vous écoutez Boomerang, évidemment. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est absolument charismatique, habité par tout ce qu'il dit, quelque part entre l'homme de foi et Barack Obama. L'œil vif, le crâne lisse, le sourire détendu. C'est un modèle de force tranquille avec son blouson en jean ce matin et son jean noir. Le réalisateur américain Barry Jenkins, invité de Boomerang pour Si Beale Street pouvait parler, en salle aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on reparle un petit peu de lumière. En quoi faire du cinéma, c'est d'abord jouer et travailler à partir de la lumière.
It's everything.
Pour plein de raisons. Je me rappelle très bien qu'à l'école de cinéma, on apprenait à tourner avec de la pellicule et à filmer des émotions avec. Or, au cinéma, on ne peut pas montrer d'émotions sans lumière. Et tout de suite, j'ai dû apprendre cette leçon. Et aussi apprendre que la peau noire, les corps noirs, ne réagissent pas à la lumière comme la peau blanche. Il y a quelque chose de politique dans la maîtrise, dans l'esthétique et dans les enjeux de ce constat. Et donc, dans Moonlight et dans ce film, la lumière est un enjeu important. Il y a une scène vers la fin de Beale Street dans laquelle le héros, Fonny, réalise une sculpture, une œuvre d'art. Et la lumière est radicalement différente de celle du reste du film, intentionnellement. Donc oui, la lumière est une affaire très sérieuse qui peut donner à une image factuelle, documentaire, une dimension presque spirituelle.
Avec quelle lumière est-ce que vous avez grandi, vous, Barry Jenkins ?
Moi, j'ai grandi dans la lumière aveuglante de la Floride. Miami, c'est une ville très horizontale, tout au sud des États-Unis. Le soleil tape fort. Et ça donne une lumière très forte, mais pas dure, qui est particulière. C'est la lumière de Moonlight. C'est une ville difficile, mais la lumière est splendide. Et quand je prends l'avion, je suis suspendu au hublot parce que je veux m'enivrer de cette lumière.
À quel moment de la journée la lumière est-elle la plus belle pour vous?
Oh man, I think it's not dusk or dawn.
Ce n'est ni le crépuscule ni l'aurore, c'est en plein midi, quand tout est sous le soleil. C'est mon moment préféré. Je me souviens quand j'étais gosse, je jouais dehors au soleil en plein midi, et j'avais la peau qui devenait belle, sombre. Et là, je me sentais vivant. C'est mon moment préféré de la journée.
Ce sont des êtres lumineux que vous nous donnez à voir dans votre film, Patty Jenkins, et je ne peux m'empêcher de remarquer l'attention toute particulière que vous portez au visage de vos acteurs. Quand est-ce que vous avez découvert la puissance d'un visage sur un écran de cinéma ?
Ça s'est passé sur Moonlight, en fait. C'était une scène avec Naomi Harris, qui joue la mère, dans la deuxième partie du film. On tournait une séquence qui, directement, est inspirée de ma vie et de celle de l'auteur de la pièce, Terrell McKernay. Et là, j'ai eu l'impression que le spectateur ne comprendrait pas la scène aussi bien que nous, qui étions présents, parce qu'il ne pouvait pas regarder Naomi dans les yeux. Et là, j'ai compris que la forme du film devait se confondre avec mon émotion et qu'elle devait regarder la caméra, c'est-à-dire le spectateur. Et elle devait non pas se substituer à mon regard, mais incarner ce regard, celui du personnage.
Et le pouvoir du silence, Patty Jenkins, pour un film dont le titre pose des questions autour du langage, si Beale Street pouvait parler.
Oui, le silence. En tant qu'élève de l'école Claire Denis, j'ai été rendu sensible au pouvoir du silence. Au cinéma, il s'agit de montrer, pas de décrire avec des mots. Souvent, dans la vie, c'est la même chose d'ailleurs. Et on apprend autant sur une personne en la regardant dans les yeux qu'en écoutant ce qu'elle dit. Elle peut vous raconter ce qu'elle veut, mais ses yeux, ils ne mentent pas.
Vous êtes souvent silencieux, vous ?
I am often silent.
Oui, souvent silencieux. Je sais, même si là devant vous, je suis en train de pérorer comme une pipelette, mais je suis quelqu'un de silencieux.
Et quand vous regardez un film, vous êtes du genre à parler ?
Non, je suis complètement silencieux. Si je me marre, je m'esclave intérieurement. Je reste absolument silencieux.
Le fameux thème de Yumeji, signé Shigeru Umebayashi, qui hante le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love. Qu'est-ce qui nous vient tout de suite en tête, Barry Jenkins?
Je vois Tony Leung et Maggie Chung qui montent et descendent l'escalier. Je les vois monter et descendre au ralenti. La fumée, la pluie, tous ces éléments. J'arrête pas de citer Claire Denis, ça devient gênant. Mais c'est l'idée de fabriquer une métaphore sophistiquée à partir d'éléments très simples, très concrets. Et cette séquence, dans In the Mood for Love, elle est très simple. On a les acteurs en pied qui montent et descendent l'escalier, de la musique et un mouvement de caméra, c'est tout. Et c'est pour ça que dans Beale Street, quand Regina King va à Puerto Rico, il n'y a aucun dialogue. Elle prend un avion du soir et pendant 3 minutes, il n'y a pas le moindre texte. Juste une comédienne, son corps. Elle se regarde et comme je la filme, elle regarde du coup le spectateur dans les yeux. Voilà la force du cinéma. Montrer, sans expliquer.
Il se joue aussi quelque chose de l'ordre de la beauté. Barry, qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, précisément, au cinéma et ailleurs ?
Je trouve de la beauté dans beaucoup de choses. Tout ce qui est authentique, qui vient du cœur ou des tripes, tout ce qu'on peut partager à sa manière, tout ça, c'est bon. Hier, dans une interview, on me demandait la plus belle chanson du monde, selon moi, et j'ai répondu Requiem String Melody, par Stars of the Lid. Un morceau très mélancolique, mais tellement beau. Pourquoi ? Parce que ça vient du cœur, avec beaucoup de présence. Et dans le monde dans lequel nous vivons, où l'artificiel est partout, tout ce qui vient du cœur, avec de la présence, c'est beau.
Merci infiniment, Barry Jenkins d'être venu faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, le très romantique Harold Manning. Je rappelle que si Beale Street pouvait parler avec Kiki Layne, Stephen James, Regina King sort aujourd'hui, c'est un film France Inter. Et c'est une beauté époustouflante. Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours le chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.
Trop beau, c'est le titre, L'homme pâle sur France Inter, et c'est l'heure de l'instant M, les médias avec Sonia.